France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Le cinéma n'a pas attendu l'invention du hors-champ pour le pratiquer, ou plus exactement, si le hors-champ a commencé d'exister avec le premier plan de cinéma, il a fallu attendre de longues années avant qu'il soit théorisé, puis qu'il s'étende bien au-delà du cinéma lui-même, dans une époque de profusion des images. Le hors-champ s'est étendu, nous dit Marie Kondrat, elle est cette semaine l'invitée de la suite dans les idées. Elle sera rejointe en deuxième partie de l'émission par une écrivaine, Ariane Jousse, dont on peut dire qu'elle pratique le hors-champ dans la littérature, une littérature qui a beaucoup à voir également avec le cinéma. Elle viendra notamment nous parler de son livre « Terreur » paru il y a quelques mois. Et puis, à la fin de cette émission, dans la rubrique « Actualité », c'est Yves Citon qui nous rejoindra pour fêter un anniversaire, encore une fois, cette semaine à la suite dans les idées, les 25 ans, et plutôt le 100e numéro de la revue Multitude, dont il est l'un des animateurs. Bonjour Marie Kondrat.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé à l'Université de Genève, et vous venez de faire paraître dans la belle collection de la librairie du 21e siècle au Seuil, tout simplement, le hors-champ, extension d'un lieu. Un livre très très original qui nous permet de penser l'une des choses assez évidentes en matière de cinéma, y compris pour, je dirais, le grand public. Tout le monde sait ce que c'est que le hors-champ depuis maintenant un certain temps, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et comme je le disais dans cette émission, il a fallu attendre assez longtemps avant que soit nommé ce procédé, cette caractéristique même qui résulte du fait de simplement cadrer avec une caméra, Marie Kondrat.
Oui, alors effectivement, le cinéma n'a pas inventé le hors-champ en tant que procédé ou en tant que phénomène. En revanche, il a quelque part inventé le mot et la notion même. Et en fait, je dois dire que ma fascination pour cette notion a commencé par le mot lui-même. Parce que il indique déjà cette tension, en fait, qui est figurée dans la représentation cinématographique ou dans toute forme du récit et même dans toute autre expérience qu'on peut avoir, esthétique, sociale, ordinaire, etc. Donc, cette tension qui indique à la fois le champ et son dehors, leur séparation, leur délimitation, donc c'est un jeu en fait qui est d'emblée marqué par une forme de tension, parfois de conflit, parfois d'énigme, et donc c'est ce terme-là, en fait mon enquête, elle a commencé à partir du terme, et donc j'ai voulu faire une sorte d'archéologie du hors-champ.
Et peut-être même du tiret qui sépare le hors du champ, en
fait. Exactement, oui.
Tout est dans ce tiret.
Tout à fait. C'est-à-dire que ce tiret, on peut l'interpréter comme un lien, mais aussi comme une limite, comme une frontière. C'est quelque chose qui est effectivement présent dans la structure même du mot, dans sa morphologie, mais qui indique aussi la dynamique que le cinéma développe de manière tout à fait exemplaire et, si j'ose dire, concrète, disons plus matérielle, puisque c'est aussi le cadre qui est décisif dans la construction du hors-champ, mais qui peut aussi être travaillé en fait de manière beaucoup plus imperceptible.
Le cadre, d'ailleurs on dit aussi hors cadre, c'est quoi la différence entre hors champ et hors cadre?
Il n'y a pas de champ dans le hors cadre. On reste, si vous voulez, dans quelque chose qui est beaucoup plus concret, on reste sur les bords, tandis qu'avec le hors champ s'ouvre toujours un autre champ. C'est la question de l'imaginaire, c'est la question de potentiel, en fait, critique qui se développe. Donc, le hors-cadre, pour moi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus technique.
Ça relève plus du chef-op que du réalisateur ou du cinéaste, en fait.
Ça relève aussi d'un choix, certes. D'ailleurs, chez les théoriciens et théoriciennes du cinéma, justement, cette séparation, elle n'est pas toujours mobilisés. Il y en a qui insistent sur l'aspect plus technique du hors-cadre, qui serait davantage lié à l'étape du tournage, tandis que le hors-champ, il concerne aussi le récit.
Donc le
montage. Il inclut également la salle du cinéma, il inclut le public. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large et qui est aussi le devant de l'écran, et pas seulement ses bords externes.
Vous disiez que vous étiez d'abord parti d'un goût pour ce mot hors champ, mais en quelle langue? Parce qu'en fait, vous relevez dans votre livre que ce mot ne se traduit pas facilement toujours dans toutes les langues, et qu'il prend des significations légèrement différentes selon les langues.
Oui, alors je crois beaucoup en ce pouvoir de mots, de dire quelque chose de très particulier, très spécifique et qui n'est pas reproductible, qui n'est pas traduisible d'une langue à une autre. Pour moi, c'était la langue française. Et effectivement, la plupart de références que j'ai étudiées sur le hors-champ sont écrites en français. Ensuite, je suis allée voir également d'autres langues, anglais bien sûr, italien. Et j'ai essayé de comprendre en fait ce qui composait la spécificité du hors-champ dans la langue française.
Et comment la décrire, cette spécificité alors?
Je dirais que justement par rapport au hors-cadre, c'est un des rares cas où la distinction existe. C'est un aussi des rares cas où l'écran n'est pas convoqué, et qui fait que c'est une notion qui peut être employée au sens métaphorique, et aujourd'hui c'est le cas. Il y a beaucoup d'emplois du hors-champ au sens figuratif du terme, et qui peuvent rendre hommage de manière plus ou moins fidèle et plus ou moins distante à la notion cinématographique. Donc pour moi, en français, l'intérêt même de cette notion est justement dans sa souplesse conceptuelle, qui renvoie aussi à la notion de champ, et oui, qui fait qu'il est en quelque sorte applicable dans plein de domaines possibles.
Et transposable, on va le voir, oui. Notamment du côté de la littérature, mais pas seulement, des arts plastiques aussi, en particulier. Si on revient un instant sur la naissance de ce concept, de ce mot, encore une fois, naissance qu'il faut dissocier de la pratique qui, elle, est concomitante du cinéma. Pourquoi pensez-vous qu'il faille attendre aussi longtemps, et dans quelles circonstances, en fait, naît le concept de hors-champ?
Alors, effectivement, quand j'ai réalisé que le hors-champ a été inventé, en quelque sorte, et théorisé seulement à la fin des années 60, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intriguée. Je me suis demandé pourquoi il n'a pas été nommé comme tel avant. Alors, il était nommé par d'autres mots, par exemple le dehors de l'écran, ou même le cadrage indirect. Il y avait plein de notions dès les années 30 et même avant qui indiquaient cet autre plan de la représentation filmique, mais avec d'autres termes. Souvent, le hors-champ, il est associé au nom de André Bazin, donc théoricien du cinéma, de la photographie aussi. Mais en fait, quand on lit Bazin, on comprend qu'il ne fait pas de théorie de hors-champ. En revanche, là où son apport est décisif, c'est qu'il a préparé un terrain conceptuel pour rendre le hors-champ pensable. Alors, j'explique brièvement, c'est-à-dire que chez Bazin, il s'intéresse à ce qu'on appelle le réalisme photographique, c'est-à-dire le réalisme qui est propre à l'image enregistrée et qui a un certain rapport particulier au réel, qui est un rapport indiciel, c'est-à-dire que la représentation photographique, elle a un rapport d'empreinte avec la réalité. Et donc Bazin, il insiste sur ce réalisme-là pour dire que, par exemple, quand un acteur sort du champ de la caméra, on sait en tant que spectatrice qu'il continue à exister dans cet espace qui est un espace pro-filmique. Et donc, avec ses réflexions, il parle aussi du cadre comme cache, c'est-à-dire quelque chose qui montre, mais qui peut aussi dissimuler en même temps, puisque, comme on évoquait tout à l'heure, tout cadre opère une sélection entre ce qui est montré et ce qui est dissimulé. Et donc, Bazin, il développe toute une pensée du cinéma comme représentation centrifuge, en fait, où la composition, elle est nécessairement tournée vers le dehors de ce qui est montré. Et c'est cette pensée-là qui prépare le terrain pour l'émergence des théories du hors-champ au cinéma.
Mais alors, qui va formuler ces théories ?
Alors, il y a plusieurs théoriciens qui se sont intéressés à la notion de manière, disons, assez différente. Il y a par exemple Noël Bourges qui a proposé une typologie très, très géométrique, concrète de l'espace au champ et hors champ à partir de Nana, de Jean Renoir. Il y a aussi Gilles Deleuze qui en a fait un concept davantage abstrait, il en parle en termes de ailleurs absolu. Il y a aussi un autre théoricien plus récent, Francesco Cassetti, qui a développé une pensée du hors-champ comme forme d'implicite, mais là encore une forme particulière, puisqu'il ne s'agit pas de quelque chose qui relève uniquement de l'interprétation. C'est-à-dire le hors-champ, il est là, il frôle les bords de l'image, et donc c'est une forme du non-dit, mais qui n'est pas uniquement affaire d'interprétation, mais qui est aussi une forme de présence concrète ou d'une absence présente.
Vous disiez tout à l'heure qu'il a fallu attendre un certain temps, le cinéma existait depuis longtemps, pour que soit théorisé le hors-champ. Et c'est lié, selon vous, aussi à un contexte historique particulier qui vous conduit même à parler, à titrer l'un de vos chapitres comme ça, des décennies du hors-champ. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces décennies ? En quoi elles sont une sorte de creuset du hors-champ ?
Je me suis beaucoup interrogée au contexte justement dans lequel cette notion émerge et qui n'est pas le contexte uniquement technologique, pour ainsi dire, puisque le hors-champ existait en quelque sorte au cinéma dès le cinéma des premiers temps. En revanche, je pense que pour situer un peu cette notion et aussi l'intérêt pour cette question de l'absence dans la représentation, mais une absence qu'on sait présente, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment lié au problème de la disparition, au sens collectif du terme. Ce sont des décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, ce sont des décennies qui suivent les crimes de masse. Ce sont aussi des décennies qui suivent toute la pensée de l'irreprésentable dans les arts, mais aussi au-delà, et donc d'un certain rapport à l'histoire qui est fondé sur le manque, la nécessité de penser l'absence, mais qu'on sait, qui résulte, si vous voulez, de l'extermination ou de quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire.
Vous revenez sur des grandes controverses, notamment celle entre Georges Didier Huberman et Claude Lanzmann.
Oui, effectivement, ce sont des débats que j'évoque aussi dans le livre par rapport à la question de l'irreprésentable, pour voir notamment ce que le hors-champ apporte à ces débats, sachant que, si je résume la controverse, la question, ce n'est pas de l'irreprésentable, ce n'est pas de savoir s'il faut ou s'il ne faut pas représenter, mais comment dire l'impossibilité de la représentation. Et le hors-champ, à mon sens, il le dit très bien, justement parce qu'il figure l'irreprésentable, en quelque sorte. Et à ce titre, le dernier film que j'évoque très brièvement dans le livre de Jonathan Glazer, je trouve qu'il s'empare très très bien de la technique du cadrage, pour le coup, puisque le hors-champ n'est pas une technique, c'est une zone, en fait, c'est l'extérieur de la propriété du dirigeant du camp d'Auschwitz. Donc, effectivement, j'évoque la possibilité de penser les questions de la représentation avec le hors-champ.
Alors, justement, c'est intéressant ce cas, parce que vous dites le film de Jonathan Glazer, La zone d'intérêt, avant d'être un film, c'est d'abord un roman de Martin Amis, et donc c'est la preuve qu'au fond, le hors-champ, il peut d'abord être dans la littérature, avant même d'être techniquement dans le cinéma. Et c'est aussi ce qui vous intéresse avec ce concept de hors-champ, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour le faire voyager d'un univers artistique à un autre, en fait.
Oui, justement, ça fait partie du contexte de l'émergence de la notion, puisque j'ai remarqué que dans le domaine du récit, dans le domaine de la pensée, de la fiction, plus généralement, en sciences humaines, il y a eu d'autres théories, en fait, qui s'intéressaient à des phénomènes ou à des espaces, à des lieux, comme ça, un peu limitrophes à ce qui est représenté, mais à partir des terrains très, très différents et qui ne sont pas nécessairement liés à la représentation visuelle. Je pense notamment à des théoriciens de la littérature comme Gérard Genette qui essaye justement de montrer l'importance de ce seuil de l'œuvre, qui développe des typologies pour le signifier, ce seuil. À d'autres approches, par exemple, qui accordent une place importante aux figures de la réception, justement en essayant d'ouvrir l'œuvre et de dire en quelque sorte que tout n'est pas contenu dans un texte et que justement et l'œuvre elle doit rester ouverte en quelque sorte pour s'ouvrir à l'interprétation. Et donc, en proposant ces théories, il y a des auteurs comme Umberto Eco, en fait, dans leur démarche, ils font exactement ce que font les théoriciens du hors-champ. C'est-à-dire, ils essayent de localiser ces zones qui sont dans le voisinage des œuvres. Ils essayent de les nommer, de les rendre en quelque sorte perceptibles, de les géométriser. Donc là encore, on a affaire à une forme d'absence qui n'est pas quelque chose d'inaccessible ou de divin, mais qui est vraiment pensée comme étant contiguë, comme étant là et qu'on peut activer ou pas.
Et ce qui est intéressant, c'est que on voit au fond ce que devient ou ce que peut devenir la littérature dès lors que les images, et notamment les images du cinéma, occupent une place si importante dans les productions culturelles. Vous vous attardez un moment sur le premier roman d'Antonio Tabucchi, qui est de ce point de vue-là très très intéressant, et qui est le roman d'un cinéphile. Vous vous intéressez aussi à Italo Calvino pour les mêmes raisons, Marie Kondrat.
Alors oui, effectivement, c'était une de mes hypothèses, qui était une hypothèse au fond très très massive et parfois pas toujours facile à porter, mais c'était de dire que finalement, ce qui influence parfois ou qui conditionne la pensée de la littérature chez tant d'écrivains et écrivaines, c'était ce rapport à l'image qui était complètement, en fait, qui se déroulait en dehors du visible. Et c'est là que la notion de hors-champ est intéressante, parce que il est tout sauf le visible de l'image. C'est-à-dire que c'est un visible qui est actualisable, mais qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on appelle une représentation visuelle. Et donc, le mécanisme même qui est à l'œuvre dans l'image, c'est-à-dire un certain rapport entre la présence et l'absence, entre ce qui est montré et ce qui est suggéré ou ce qui est laissé de côté, c'est un mécanisme qui est présent chez les écrivains que vous venez d'évoquer, mais aussi chez d'autres, et qui essaye justement de penser l'écriture comme un jeu et une manière aussi de travailler ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Sauf que le non-dit, il est en quelque sorte prédéfini par l'écriture.
Mais en vous lisant, j'ai pensé à beaucoup d'autres écrivains, Don DeLillo, Jean-Philippe Toussaint, par exemple. Mais au fond, je me suis dit aussi, c'est étrange de devoir attendre que le cinéma arrive avec cette notion de hors-champ pour produire de l'influence sur la littérature, là où on aurait pu s'attendre à la même chose venant de la de la peinture, en fait. C'est-à-dire que ces questions de montrer, représenter, elles sont déjà présentes depuis des siècles et des siècles dans la peinture. Mais c'est comme si elles n'avaient pas produit le même effet sur la littérature, tout à fait. Peut-être parce que la peinture n'a pas partie liée avec le récit de la même manière que le cinéma l'a, en fait. C'est l'hypothèse que je ferais, Marie Kondrat.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est au cœur de cette question. C'est la question de la narration, la question de la narration visuelle qui est de nos jours devenue dominante. On parle de la civilisation de l'image, donc c'est pour cause. Et je pense que justement l'influence, elle s'opère au niveau du récit, au niveau de comment on raconte une histoire au sein d'une culture qui est en quelque sorte gouvernée par, encore une fois, non pas l'image en tant que telle, ni même le hors-champ, mais par le visible, sa présence imposante. Et là, je parle aussi bien des œuvres, mais aussi des publicités ou même de l'imagerie médicale. C'est aussi quelque chose qui conditionne notre rapport à l'art et à l'image.
Vous vous intéressez, vous le disiez tout à l'heure, parce que le hors-champ y invite, à la question des bords, des bordures de ce qui est juste de l'autre côté, ce qui vous amène à parler même de banlieue du texte. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Bah, la banlieue, il y a des lieux et puis il y a la banlieue. Alors, ce qui est intéressant avec cette notion de la banlieue, c'est que je la préfère à des notions comme des marges, hein, qui sont devenues, si vous permettez, en quelque sorte consensuelles, puisque quand on parle des marges, on parle aussi souvent du centre. Or, avec la banlieue, je ne sais pas quel serait son opposé. Ce qui est intéressant avec la banlieue, c'est justement son indétermination. Et quand je parle des banlieues du texte, elles sont multiples. Alors j'évoquais tout à l'heure Genette, on peut penser à tout ce qui entoure le livre immédiatement, comme je ne sais pas, une préface par exemple, mais aussi c'est une zone dans laquelle évoluent des personnages secondaires par exemple. Et justement, dans les analyses que je propose, j'évoque cette idée que ce sont des personnages principaux qui fondamentalement ont besoin des personnages secondaires et non pas l'inverse. Donc, c'est toujours cette zone un peu oblique, différente, qui fait que, voilà, rien n'est arrêté. Hein. C'est elle qui active le texte, si vous voulez.
Je voulais m'arrêter sur un autre mot que vous placez dans le titre du dernier chapitre, qui est étonnant parce que je faisais le parallèle avec la peinture tout à l'heure, mais c'est pas vers la peinture que vous allez, c'est vers la sculpture. Pourquoi avoir fait ce parallèle au fond avec l'idée de sculpter lorsqu'on cadre ?
Oui, j'en parle à propos du non-dit et à propos du manque. Sculpter parce que en fait je voulais insister sur cette absence, cette forme d'absence particulière qui est figurée par le hors-champ mais qui ne la rend jamais présente fondamentalement. Et donc je cherchais un terme pour dire en fait ce creux ou ce vide qui peut être formé par le hors-champ mais qui ne le transforme pas en une présence en quelque sorte. D'où mon idée du terme sculpté qui est une sorte de modélage d'un manque et d'une absence.
Enfin, il y a une autre dimension puisqu'on est à la radio, et ça compte, c'est celle du son qui rend les choses plus compliquées encore, parce que, au fond, le hors-champ désigne avant tout les images, vous l'avez dit, le fait d'être dans ce monde de profusion d'images. Mais là où c'est très compliqué, c'est que très tôt, dès que le cinéma devient parlant, en tout cas, il y a le hors-champ, ce qu'on ne voit pas à l'image, mais qu'on peut entendre. Et de ce point de vue-là, il y a des gens qui ont élaboré des choses passionnantes. Je pense à Michel Chion, bien sûr, mais aussi, vous le citez, à Pascal Bonitzer, qui, dans les années 70-80, ont permis de penser un peu mieux le hors-champ en tenant au fond, les deux bouts, l'image et le son, comme deux pistes différentes qui ne sont pas toujours mixées exactement de façon synchrone, en fait, Marie Kondrat.
Oui, bien sûr. Alors, ces auteurs, le son, c'est-à-dire le son, par exemple, dont on ne voit pas la source ou la voix off qui est superposée à l'image, qui n'en fait même pas directement partie du récit qui est montré, ce sont des indices possibles du hors-champ et des indices, là encore, très concrets, très matériels, puisque la voix, elle a quelque chose de très présent, de très incarné, et donc c'est un procédé parfait pour signifier le hors-champ spatial, le hors-champ narratif de l'image. Ce qui est intéressant aussi avec la voix off, et là je pense à une œuvre qui est le film Les photos d'Alix, par exemple, de Jean Eustache, que j'évoque dans le livre,
c'est que on peut d'Alix créer, Cléo Roubaud.
Voilà, on peut créer des décalages. Et la voix off, dans ce sens-là, elle devient un lieu, justement, depuis lequel on peut dire que tout n'est pas montré dans l'image. Et même ce qui est montré, parfois, il peut être falsifié ou il ne correspond pas aux commentaires. Et donc, c'est une manière de dire que la représentation visuelle, elle appelle à la parole par rapport à ce que l'on voit. C'est une question très, très ancienne. C'est une question qu'on peut trouver chez le sophiste de Platon. Mais donc, il y a toujours ce travail du rapport, en fait, entre l'image et la parole et qui fait que le visible n'est jamais réductible à lui-même.
Dans votre livre, vers la fin, vous évoquez la scène de la fin d'un film. Que j'ai choisi de prendre une image pour illustrer cette émission sur le site de France Culture, c'est une scène de Profession Reporter de Michelangelo Antonioni. Vous pourriez nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr, il s'agit de l'image qui est dans le miroir. Alors, c'est un exemple qui est peut-être un peu inattendu dans la mesure où le film, il est connu avant tout pour le procédé de plan-séquence, qui dure très longtemps. Je crois que c'est la limite du plan-séquence qui correspond donc à 11 minutes et quelques. Et donc, il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à l'élaboration de ce procédé et justement avec le hors-champ. En fait, je montre que toute la machinerie du cinéma, elle est placée dans le hors-champ en quelque sorte. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut deviner et qui permet d'aboutir à cette image que vous évoquez. Donc, une représentation qui est une représentation naturelle, c'est une image naturelle, un miroir, avec la protagoniste qui regarde en dehors du cadre et... le protagoniste, lui, il porte son regard sur elle, sauf qu'il y a un miroir entre les deux. Et pour moi, ce plan, il est très intéressant parce que justement, il illustre très bien cette puissance ou cette énergie qui est portée par le hors-champ à faire déplacer les regards, à faire déplacer les sujets qu'on regarde, mais aussi les sujets qui sont porteurs du regard. Donc, il y a une sorte de confusion baroque qui se crée avec ce miroir interposé entre les deux personnages. Et donc, oui, on peut s'interroger sur le hors-champ immédiat de l'image, si vous voulez. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est justement de voir la multiplicité des lieux qui est inclus et non dans ce plan.
D'où cette idée d'étendre ce lieu, d'étendre le hors-champ, d'entendre par là autre chose que simplement ce qui n'est pas dans le cadre, mais d'avoir une définition très large du hors-champ qui fait qu'on peut, par exemple, y faire entrer ce qu'on appelle, et ce qu'on avait peut-être coutume avant de parler de hors-champ en matière littéraire, l'ellipse, par exemple.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'ellipse... ce serait un type du hors-champ, un type justement narratif qu'on peut d'ailleurs trouver en littérature, mais aussi au cinéma ou même dans les conversations quotidiennes. Hein. Donc, généralement, les ellipses, c'est quelque chose qui n'est pas dit, mais pourtant tout se joue dans les ellipses. ou dans les silences, si vous voulez.
Et donc ce sont des choses qu'il faut deviner aussi.
Alors c'est une bonne question, et c'est une question que je me pose souvent à propos du hors-champ, à savoir pourquoi ce désir de deviner, de comprendre, est-ce qu'il faut le satisfaire? Il y a quelque chose dans le hors-champ qui, certes, justement la notion, elle devient palpable lorsqu'on y porte attention. C'est un vide qui ne demande pas systématiquement à être rempli.
On continue à parler des vides, la manière de les remplir ou de ne pas les remplir avec Ariane Jousse qui nous rejoint pour parler de terreur. Mais c'est après un extrait du nouvel album de Wednesday, Townies.
Catching up with the townies, some have gone but most are still around. The ghosts, them surround me, hang on tight until they drown. Met you in the neighborhood, you had connects to get us high, and then you sent my nudes around. I never yelled at you about it, cause you died.
Je ne reste plus sur les bords du film, en laissant filer les secondes qui deviennent des minutes, j'accepte de plonger dans l'histoire, très doucement, de manière progressive, le sens émerge. Là, maintenant, il te suffit de rappeler la blondeur de MV, sa silhouette opaque, sa grande beauté obscure, réveille l'écran noir, laisse tes yeux la regarder et laisse-la t'adoucir. Voilà, c'est un extrait de Terreur, votre deuxième livre, Ariane Jousse. Vous nous rejoignez pour dialoguer avec Marie Kondrat à propos de Hors-Champ. Il s'agit d'un texte de littérature et j'y ai trouvé beaucoup d'échos avec ces réflexions et notamment l'idée qu'on peut faire de la littérature après le cinéma, bien sûr, ça on le savait, mais aussi de le faire en ménageant des places particulières au hors-champ, au bord de l'image, à des images qu'on fige, dans lesquelles on choisit de plonger ou de s'en extraire. Et au fond, à laisser aussi ne pas advenir le sens, parce que votre livre, au bout d'un moment, je me suis surpris à le lire dans tous les sens, en fait, comme une proposition littéraire qui se débarrassait de la contrainte du récit, Ariane Jousse.
Eh bien, écoutez, c'est une excellente chose de lire ce livre dans tous les sens, puisque c'est un roman qui se construit justement en dialogue avec l'idée de montage. Donc, peut-être pour situer rapidement l'intrigue, c'est l'histoire d'une femme dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'elle est en crise, qu'elle traverse une crise personnelle. Et puis, elle entend parler de la disparition d'une actrice. Donc là, on est dans le hors-champ au sens figuré, une grande actrice, une icône du cinéma qui disparaît à la veille de présenter un festival de cinéma.
Elle en entend parler avec des images d'ailleurs, des images qui parlent de cette disparition.
Tout à fait. Elle se prend de fascination et d'obsession pour l'image de cette actrice qui est très belle, très blonde, très Antonioni, Hitchcock, voilà. Et donc elle commence à regarder de manière obsessionnelle ces images, les images de cette actrice, et petit à petit, elle va rentrer à l'intérieur du dernier film, Terreur, dans lequel a tourné cette actrice. Et ce film, elle choisit, d'où la question du montage, de ne pas le regarder dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on parlait du visible qui peut prendre une place peut-être démesurée et qui peut être violent à voir parfois. Et donc l'image de cette femme, d'une façon assez mystérieuse, lui est quasiment insoutenable pour elle. Et donc elle va décider de la regarder, de la voir de manière désordonnée, chaotique, fractionnée. Elle regarde le film, voilà.
Comme j'ai lu le livre, en fait.
Voilà, comme, ouais, exactement.
C'est-à-dire qu'en fait, vous marquez les minutes du film, vous décrivez ce qu'il y a sur l'image. Par moments, il y a ces séquences qui se manifestent typographiquement différemment, dans votre livre. Mais cette façon de procéder, d'écriture, au fond, qui relève aussi du montage, montage d'images, mais montage aussi d'éléments de texte et de contexte que vous donnez, laisse la question du sens largement en suspens, et c'est au lecteur ou à la lectrice de se débrouiller, en fait.
Mais justement, moi, c'est ce que je trouve très beau, et c'est ce que j'ai trouvé très beau à la lecture de votre livre, Marie Kondrat, c'est cette idée que le lecteur, dans le hors-champ, peut recréer son sens à lui. Et elle, c'est ce qu'elle fait. Elle voit un film dans le désordre, et elle recrée un nouveau film à partir de ce film-là. Elle lui donne un nouveau sens, et c'est ce sens-là, ce mouvement qu'elle va donner aux images, qu'elle reconfigure elle-même, qui va lui permettre de traverser la crise qu'elle est en train de vivre, et de s'incarner petit à petit, et de revenir à la vie, et de remettre du mouvement dans son état intérieur quelque peu sidéré et immobile.
Mais au fond, le sentiment qu'on a en vous lisant, c'est que elle traverse peut-être cette crise, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle est traversée littéralement par ces images, comme on l'est tous par les flux d'images permanents qui défilent sous nos yeux du réseau Instagram ou devant les écrans de télévision. On est littéralement traversé aujourd'hui par ces torrents d'images. Et c'est ça que rend, je trouve, magnifiquement votre livre.
Oui, elle est complètement happée par un besoin d'image, une forme de peut-être de pulsion scopique, un besoin de revoir toujours les mêmes images, de revoir cette femme, de la faire défiler. Mais là-dedans, en fait, il y a paradoxalement pas beaucoup de mouvement, quoi. C'est très fixe, et ça parle d'une vie intérieure figée, peut-être aussi plus profondément d'un deuil qui n'a pas été fait. En tout cas, c'est ce qu'on devine à la lecture du roman, je crois. Mais oui, l'afflux d'images vient essayer de nourrir quelque chose chez elle. Et puis elle va réussir à donner du sens à tout ça et à le traverser, quoi, finalement.
Quel rapport vous entretenez, vous, avec le cinéma ?
Je dois dire que c'est le fait d'avoir vu plusieurs actrices, notamment Monica, l'actrice Monica Vitti chez Antonioni, dans La Ventura, qui m'a inspiré les grandes images qui sont au centre et à l'origine de Terreur.
Les initiales MV.
D'où les initiales MV, tout à fait. La femme qui arrive sur une île, l'île qu'on devine comme une île des îles éoliennes en Sicile. Il y a une éruption volcanique quelque part à l'intérieur du film Terreur qui est dans le roman. Donc je crois que ce sont de grandes images de cinéma qui m'ont moi-même obsédée et j'ai voulu comprendre pourquoi ces images s'inscrivaient à ce point dans ma rétine, dans mon inconscient même, et j'ai cherché à les mettre en mouvement dans l'écriture.
En lisant le livre d'Ariane Jousse, Marie Kondrat, je me suis rappelé la citation que vous faites d'un entretien que Roland Barthes a donné au Cahier du cinéma en 1963 à propos du sens, justement.
Suspendre le sens. En effet, je pense que Antonioni, c'est un réalisateur qui suspend le sens de manière tout à fait impressionnante. Je pensais en vous écoutant à un autre plan des mains de Monica Vitti, non pas dans l'aventure, mais dans l'ellipse. Et en fait, son visage est coupé. Elle ne parle pas beaucoup dans ce film. Et donc, il y a un magnifique gros plan sur ses mains. Alors oui, la suspension du sens, c'est quelque chose qui est effectivement figuré dans le livre Terreur de manière typographique par l'alternance des chapitres, c'est tout le jeu du chant et non pas du hors-champ mais du contre-champ que vous installez, comme où l'expérience de la spectatrice devient une interprétation possible du film. Mais il me semble qu'il y a encore autre chose qui est très importante, c'est la question de l'identification. Et l'identification possible à cette actrice qui disparaît, qui est une figure composite. On peut penser à Monica Vitti, mais j'ai pensé aussi à Ingrid Bergman. Et justement, ce hors-champ-là, c'est aussi le hors-champ du vécu des actrices. On commentait tout à l'heure le plan du film avec Maria Schneider. Alors là aussi, on peut l'interpréter aussi à la lumière de tout ce qu'elle a vécu après ce film. Donc il y a aussi ce hors-champ-là qui est celui de l'industrie cinématographique, celui de la production des images, celui de la condition féminine, parce que elle disparaît, on ne sait pas exactement pourquoi. Et les actrices qu'on a citées, alors Ingrid Bergman notamment, on sait qu'il y aurait presque deux Ingrid Bergman, c'est-à-dire une qui transcende tous les films dans lesquels elle joue. On reconnaît sa voix, sa manière d'être, et puis l'autre, Ingrid Bergman, parfois rejetée et censurée à certaines étapes de sa vie. Donc pour moi, cette question de l'identification de votre protagoniste aux actrices, elle est vraiment très très importante, et aussi par l'activation de ce qui n'est pas montré dans le récit filmique.
Identification d'une femme, donc Ariane Jousse.
Tout à fait. Effectivement, l'identification, c'est peut-être le moteur thérapeutique qui va aider ma narratrice à remettre du mouvement dans sa vie. Et c'est effectivement en s'identifiant à cette actrice et en imaginant que cette actrice lui parle, donc en faisant dialoguer, en dialoguant elle-même avec le film, en recréant le film et en instaurant un dialogue avec lui, qu'elle réussit à s'en sortir, qu'elle réussit à dépasser ses propres silences, ses propres zones inatteignables, figées, traumatiques, et qu'elle parvient à retrouver prise sur le réel.
Il y a une autre dimension dans ce livre qui est la manière dont vous avez voulu vous emparer, je pense que vous le dites explicitement, de la question du gaze et du female gaze en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Je me suis appuyée là sur les travaux d'Iris Bray et sur sa manière de définir le female gaze par trois critères. En fait, un film, je crois que le film Terreur à l'intérieur du livre, bon déjà c'est un film qui est réalisé par une femme et c'est un film qui interroge les rapports de domination. Et c'est par ailleurs un film qui cherche à montrer, à retranscrire au plus proche l'expérience d'un sujet féminin. Et donc en fait, cette femme, toutes les femmes de ce livre sont des femmes qui cherchent à échapper à un regard, qui cherchent à échapper à un regard qui pourrait être dominant et qui vont trouver, qui vont réussir à se réemparer de leur expérience et à s'affirmer comme sujet. Donc ça, c'est l'expérience que propose le Female Gaze.
C'est votre deuxième livre. Je crois que le premier se présentait comme un livre de poésie. Moi, j'ai l'impression que celui-là relève de la même catégorie, mais il est plutôt présenté comme un roman. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, je ne sais pas. C'est une question très vaste, très large. Je crois qu'on peut, à vrai dire, peut-être que la langue est traversée de grandes images qui peuvent faire penser à la poésie. Néanmoins, j'ose espérer qu'il y a quand même une intrigue et un sens qu'on peut réussir à configurer et à comprendre de manière assez, tout de même, assez proche de ce qu'on pourrait trouver dans un roman. Au sens classique.
Marie Kondrat, moi j'étais frappé par cette technique de montage au fond qui prend des grandes libertés avec la construction classique d'un roman. C'est pour ça que je vous posais la question et je trouve que la manière de recourir de façon aussi fréquente au hors-champ en cela rapproche peut-être le livre d'une forme d'écriture poétique plutôt que d'une écriture romanesque.
Ce qui est certain, c'est que je suis très intéressée par les œuvres, que ce soit des œuvres cinématographiques ou des romans, qui laissent une très large part à l'imagination de celui qui les voit ou qui les lit. Et je trouve ça toujours très, très stimulant que le lecteur puisse lui-même reconfigurer son sens, imaginer, rentrer dans les interstices du texte, entrer dans le hors-champ et essayer lui-même de deviner ce qui se cache dans cette énigme.
Merci beaucoup, Ariane Jousse. Terreur, donc le livre a paru aux éditions de L'Ogre. Et puis, on trouve la référence sur la page de La Suite dans les idées. Et Marie Kondrat, qui est professeure à l'université de Lausanne et non pas de Genève, je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, Le hors-champ, extension d'un lieu, à la librairie du 21e siècle, aux éditions du Seuil. Pareil, la référence sur la page de l'émission.
France Culture, La Suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Actualité avec un anniversaire, comme on veut, les 25 ans d'une revue ou son numéro 100, ça revient au même s'agissant d'une revue qui publie 4 numéros par an. Il suffit de faire une opération assez simple pour y arriver. Cela dit, toutes les revues ne parviennent pas à tenir le rythme. Il faudrait peut-être d'abord et avant tout commencer par là, Yves Citon. Vous êtes depuis le début, Multitude, presque.
Presque, 2 ans après le début.
Ouais. Voilà, donc.
Je suis pas un fondateur.
23 ans de cette revue, vous en êtes l'un des animateurs. Commencez par là, c'est-à-dire souligner la persévérance, l'effort collectif, parce que c'est toujours une joie et un effort de faire une revue.
Tout à fait. C'est une sorte de grande aventure intellectuelle que je conseille vraiment à tout le monde de dire qu'on pense ensemble. En étant des fois d'accord, parce que si on est toujours en désaccord, ça va pas durer, et en même temps, en étant souvent quand même dans le dissensus, avec des périodes un peu de crise, et puis des périodes où ça va mieux, mais de toute façon, de se dire qu'à chaque moment historique, tous les 3 mois, on doit essayer de se demander qu'est-ce qu'il y a d'important dans le moment, et peut-être aussi qu'est-ce qu'il y a de hors-champ dans le moment. Parce qu'en vous écoutant tout à l'heure, Marie Kondrat, j'ai enfin compris ce qu'on essayait de faire avec Multitude depuis 100 numéros et depuis 25 ans, à savoir de se demander dans ce qui nous intéresse, où est-ce que nous pourrions faire une toute petite intervention qui sortent un petit peu, alors c'est peut-être hors cadre ou hors fenêtre d'Overton. Hein. On dit ça aussi dans le monde journalistique. Il y a des choses qui sont audibles, qui sont voilà, qui rentrent dans le champ, qu'on peut identifier.
On parle d'agenda aussi. Voilà, pas d'agenda. Sur l'agenda.
Voilà. Et nous justement, alors c'est peut-être pour ça qu'on est difficilement visible. Si on parle de visibilité, on a très peu de relais. Merci beaucoup d'abord Sylvain de nous inviter Multitude ici parce que ça nous arrive pas très souvent. Et là, on peut être frustré en se disant qu'on manque de relais. Où on peut essayer de valoriser ça et de dire que peut-être c'est justement parce qu'on essaye de parler de choses dont on ne parle pas qu'on essaye de sortir de cette logique des médias qui est qu'on parle de ce dont on parle.
Alors avant d'en venir au contenu de ce numéro 100, à sa forme et à son contenu, peut-être pour prolonger ce que vous disiez sur l'effort qui consiste à faire une revue, comment vous procédez, comment vous organisez ce débat dont vous parliez entre vous, quels outils vous utilisez tout simplement pour faire exister ce collectif?
Alors, il y a surtout du présentiel. Pendant très très longtemps, c'est de se voir tous les 15 jours, plus ou moins, et de planifier 1, 2, voire 3 numéros à l'avance, mais pas beaucoup plus. Avec finalement, et malheureusement, je dirais un petit groupe, hein, c'est un petit groupe de personnes qui maintenant prend un petit peu d'âge.
C'est quoi, une douzaine de personnes?
Ouais, voire moins.
Hein, voire moins.
Voilà, voire moins. Donc, c'est un tout petit groupe. On n'a absolument aucun budget, donc on n'a jamais fait de publicité, on n'a pas de revenus, etc. On est tous bénévoles, sauf une maquettiste qui fait un boulot et puis les imprimeurs, forcément. Donc, c'est un tout petit groupe qui essaye quand même de s'ouvrir à l'ailleurs, à des gens dont on n'entend pas souvent parler. Et en particulier, on est assez fiers d'avoir été ceux qui ont publié les premiers articles de pas mal de gens jeunes. Donc, il y a des gens, même des fois au niveau du master, voire de la licence, on se dit bah, « Tiens, là, il y a quelqu'un qui pense bien. » Et puis, on prend ça et on le publie. Donc, ça, c'est une des choses qu'on essaye de faire. Aussi, on essaye, parmi les revues française, donc Multitude, juste pour le dire, c'est une revue généraliste. Donc on peut aussi bien faire un dossier, c'était l'avant-dernier, sur la dette, sur les questions de dette écologique, etc., qu'un dossier sur Lynn Margulis ou un dossier sur le design de la comptabilité qui va venir, ou sur les extraterrestres, ou sur l'histoire de l'art vue d'Afrique. C'est justement cette espèce d'ouverture qui fait qu'on est généraliste, qu'on s'adresse pas à telle discipline ou à telle école, qui nous permet de nous positionner sur ce qui nous semble important à chaque moment, avec finalement une grande liberté, et donc en sollicitant beaucoup de gens extérieurs à notre toute petite équipe.
Alors ce numéro spécial automne 2025, le numéro 100, se présente sous une couverture d'un jaune soutenu, avec un ensemble de mots, une sorte de nuage de mots, de A pour Amazigh à W pour wokisme. Vous avez pris le parti, au fond, d'un éclatement du numéro plutôt que d'un dossier.
Voilà, parce que donc d'habitude on a une structure, enfin ça fait là 25 ans qu'on a une même structure stable, avec un gros dossier qu'on appelle majeur, un plus petit dossier qu'on appelle mineur, avec ce que ça peut vouloir dire dans le monde de Deleuze et Guattari, quelque chose qui est justement un peu hors champ, un peu marginal, un peu hors cadre, y compris dans les modes d'énonciation. On a aussi une rubrique icône qui essaye, donc ce qui est des images, on invite un ou une artiste ou un collectif d'artistes à intervenir dans le numéro, ça peut être juste quelques pages au milieu, ou ça peut être complètement dispersé pour utiliser la revue comme un lieu d'exposition, mais tout à fait perpendiculaire, à savoir qu'on fait en
c'est
sorte...
pas de l'illustration.
Voilà,
oui.
Que ça n'ait aucun rapport avec le contenu textuel de ceci. Et donc voilà, on a ces rubriques, on a une rubrique à chaud, qui est un petit peu éditoriaux, et puis il se trouve qu'on a une rubrique qui s'appelle Hors-Champ, justement. Donc ça renvoie la suite dans les idées, c'est que ça fait 25 ans qu'on a une rubrique qui s'appelle Hors-Champ. Et là, pour le centième, parce que quand même, il faut changer un petit peu, donc on a fait que des petites interventions. Donc d'abord,
vous avez fait revenir tous les artistes.
Voilà, alors tous pas, mais une beaucoup. Quarantaine d'artistes qu'on a justement sollicité pour nous faire des icônes et qui ont la gentillesse de le faire, parce que vu qu'on est une revue sans revenu, on peut pas les payer. Et nous, on a de la chance d'être un peu universitaire, d'avoir des salaires, etc. Mais pour les artistes, de nous donner quelque chose gratuitement, c'est vraiment un très très grand cadeau qu'ils nous font. On est un peu honteux de ne pas pouvoir les payer, mais on est reconnaissant. Et là, en plus, donc, on leur a demandé de nous donner une image. Et donc, on a une palette d'une quarantaine d'artistes, de gens très très célèbres à des gens plus jeunes, de nouveau, qu'on aime beaucoup et envers lesquels on est très reconnaissant. Et donc, pour le texte, on s'est dit, quels seraient quelques mots-clés, comme une sorte de glossaire, pour essayer à la fois de reparcourir ce qu'on a fait pendant 25 ans, de prendre un petit recul face à ça en se disant, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a raté, en quoi parler d'écoféminisme il y a une quinzaine d'années, c'était un peu original, en quoi une grande partie des théories du care ont quand même, grâce à Sandra Laugier, qui fait aussi partie de l'équipe depuis longtemps, ont quand même passé par multitude. Donc il y a une série de choses, l'accélérationnisme, etc., les questions de revenus garantis, le capitalisme cognitif, il y a toute une série de choses.
Le revenu universel,
voilà, auxquels je crois qu'on a joué quand même un tout petit rôle pour les introduire dans la fenêtre de ce qui est visible.
L'Europe qui est en petit, mais qui a joué, j'imagine, un rôle très important durant toutes ces années.
Alors, qui a joué un rôle important, parce que c'est d'entre nous qui sont très 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 sanguins pour penser l'Europe un peu différemment, avec il y a quelques-uns de ces termes qui aussi parfois ont fait clivage, à savoir que l'Europe, là on vient de faire un numéro sur la guerre et on était assez, c'était difficile pour nous, mais on a fait un numéro sur la guerre qui défend des points de vue radicalement opposés. Il y a des sortes de pacifistes un peu naïfs et primaires comme moi, et puis il y a des gens qui nous expliquent que Poutine c'est vraiment très dangereux et qu'il faut s'armer, etc. Et l'enjeu d'un numéro et d'une revue comme ça, pour nous, me semble-t-il en tout cas, c'est une sorte de multiperspectivisme, d'arriver à la fois à parler ensemble, à ne pas être d'accord et à essayer de s'écouter les uns les autres, même si on n'est pas d'accord, voire surtout si on n'est pas d'accord, étant donné qu'il y a quand même toute une série du champ de la parole qu'on exclut parce qu'on n'a pas envie de publier des technofascistes ou des gens comme ça.
Un autre mot d'ailleurs qui revient deux fois, migrant, transmigration.
Oui, donc ça c'était un des thèmes aussi de fondateur un petit peu de multitude, de penser les migrations dans un cadre très très large et la mondialisation, la globalisation par la circulation des corps et de penser cette fuite, cette fugitivité des corps. Ça c'est vraiment un très grand motif de la revue qui est amené par Yann Moulier-Boutan.
Il y a aussi le mot étranger par exemple qui va dans le sens.
Voilà, tout à fait. Et de penser la fugitivité comme une force, comme une force historique, pas juste comme une lâcheté ou quelque chose, mais une force qui travaille l'histoire, qui sont justement ces phénomènes de migration, de transmigration, pas forcément dans un sens, aussi des mouvements un petit peu plus compliqués que ce qu'on imagine habituellement.
À travers beaucoup de mots, on repère aussi métadossiers de questions qui sont majeures, qui sont centrales, qui reviennent souvent, d'un côté l'écologie, de l'autre le numérique.
Oui, tout à fait. Écologie, numérique, avec toutes les questions de... On parlait d'immatériel il y a quelques années. Aujourd'hui, le croisement entre écologie et numérique, justement, ça fait qu'on parle moins d'immatériel.
C'est très matériel quand même,
voilà,
le numérique.
C'est très, très matériel et qu'on le savait, on n'était pas complètement idiots, mais qu'on a joué avec ce mot immatériel d'une façon qui était de même sur la gratuité. On a beaucoup, beaucoup parlé de gratuité au début des années 2000. Et les choses avancent et on revisite un petit peu ce qu'on a dit. Donc là, on a quelque chose sur open source, quelque chose sur la propriété intellectuelle, etc., avec une dimension aussi qu'on a essayé de mettre dans ce numéro, qui n'est pas seulement de regarder en arrière ou de regarder le présent, mais de se dire, qu'est-ce qu'il y aurait comme problème en train de se faire. Et là, donc, on a quelqu'un qui nous fait très extérieur à nous, qui réfléchit aux intelligences artificielles et copyright, mais pas tellement sur le fait que c'est un pillage d'œuvres déjà existantes, mais qu'est-ce qui va arriver en aval, les droits de ce qui est produit à travers des IA. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, et c'est une des choses qu'on essaye de se faire. On essaye de repérer des problèmes qu'on aide à poser alors qu'ils sont justement hors champ ou hors cadre habituellement.
Alors ça veut dire que ce numéro rassemble des papiers un peu plus courts que d'habitude parce qu'ils sont, plus nombreux.
Tout à fait.
Et vous avez écrit sur quoi par exemple, Yves Citon ?
Ah, moi j'ai écrit trop d'articles, mais on va peut-être parlons plutôt d'autres articles. Il y a un article de Jacopo Razmi que j'aime beaucoup sur les universités, qui me semble assez symptomatique de ce qu'on essaye de faire, à savoir qu'il va de remarques ou de citations d'Agamben à des considérations sur les universités au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'était que ce lieu des universités au Moyen-Âge, en passant par le présent, parce qu'est-ce que c'est qu'étudier maintenant et qu'est-ce que ça pourrait devenir, non seulement safe space, mais brave space que des universités. Donc ça traverse plein de choses et j'aime bien ça, moi.
Merci beaucoup, Yves Citon. Le numéro 100 de Multitude est en librairie et s'il n'est pas chez votre libraire, demandez-lui de le commander. On trouve les références sur la page de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay, à la technique et la réalisation, Sorge Leroy.